Moi, je suis sociologue de formation de droit d'origine. Aujourd'hui, je suis chargé de mission au QCAT, un organe incitatif de recherche, donc je suis un petit peu dans la gestion de la recherche et de la conception. Il m'arrive d'être sollicité comme expert. Donc finalement, je parlerai avec un statut un petit peu hybride, à la limite de la recherche, à la limite du monde de la décision publique et de l'expertise. Alors, je procéderai d'abord par un petit détour pour introduire la discussion et j'en viendrai à peut-être des interrogations plus directes posées par les deux interventions dont André indique qu'elles étaient complémentaires, en tout cas qui, de mon point de vue, étaient extrêmement différentes, voire opposées dans le rapport à l'objet. Alors, le petit détour que je propose, qui est un moyen pour moi de construire ma compréhension du sujet des enjeux, c'est, j'entrerai par ce que j'appelle, moi, le tournant climatique du développement durable. Qu'est-ce que j'entends par là? Il me semble qu'on a assisté ces dernières années à un tournant, c'est-à-dire à la mise à l'agenda d'un problème particulier qui était celui du réchauffement climatique, qui peut être considéré comme une expression radicale qui est essentielle du développement durable, parce que l'infinitude des ressources qui étaient au principe du développement durable se trouve dans la question du réchauffement climatique, portée à un degré que les autres considérations sur les autres ressources n'avaient pas atteint. Et en même temps, il me semble que ce tournant climatique change radicalement les conceptions, le rôle, le statut du développement durable dans les politiques publiques, les politiques qui se réclament du développement durable. Pourquoi ? Parce que avec les données qui sont fournies par le GIEC, notamment, on établit, à partir de ces données-là, ont été établies par un certain nombre d'États qui ont validé ces thèses-là, un certain nombre de valeurs limites à ne pas dépasser en matière de température, donc en matière d'émissions de gaz à effet de serre, donc en matière d'augmentation de ces émissions et un programme de backcasting qui fixe à 2050 une réduction d'un facteur 2 des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'ensemble de la planète, un facteur 4 au niveau des pays développés, et que cette inscription de ces objectifs-là dans un calendrier précis conduit à orienter les politiques, à leur donner un statut d'urgence qui, sans être absent de la problématique du développement durable, n'était pas à ce point avancé, et donc traduit pour moi un saut qualitatif. Et ce saut qualitatif, ça se traduit par l'institution d'un clivage entre le monde de la compétence, de la connaissance, de la décision, c'est-à-dire d'acteurs qui sont les dépositaires de ces politiques dites de facteur 4, qui soient des acteurs publics légitimes, soit des acteurs militants qui les reprennent. On peut penser par exemple à des associations comme Negawatt, par exemple. Et donc, l'institution d'un clivage entre ce monde de la connaissance et de la décision publique ou du comportement militant vertueux et le monde des gens, le monde du social, des relations sociales, des usages. Et ce clivage conduit finalement à raisonner selon deux modalités, et c'est à l'intersection de ces deux modalités, à mon avis, se pose aujourd'hui la question de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire un enjeu de prédictibilité. Maintenant que nous savons ce qui nous attend, si nous ne faisons rien, maintenant que nous sommes investis de cette responsabilité-là, dans quelle mesure, que sommes-nous en droit d'attendre de capacité d'action de nos concitoyens, donc en termes de prédictibilité, et que nous est-il possible de faire, comment pouvons-nous agir pour transformer leur comportement, leurs usages, et donc de quelle manière pouvons-nous les influencer. Et là, les sciences sociales se trouvent finalement prises entre deux positions qu'on a vu représenter à la tribune. Une position, je vais qualifier de critique, qui consiste à dire les sciences sociales, le chercheur n'est pas là pour résoudre les problèmes, mais pour identifier des dangers, des dérives, montrer que derrière ces institutions-là, il y a des formes d'assujettissement, de dépossession, de pouvoir. Ou alors, une autre attitude qui consiste à prendre au sérieux ce risque climatique, à le rapprocher de la catastrophe, vous avez évoqué le séisme, et donc, au nom de cette responsabilité face à l'accident, bien, documenter ce que vont être les déterminants des comportements, un petit peu comment on aurait la responsabilité de faire face à un risque de séisme, et du coup, développer des technologies de compréhension, d'anticipation et d'influence des comportements. Et donc je ne sais pas si ces deux positions sont conciliables, sont articulables, mais la question de l'acceptabilité sociale dans les deux cas de figure me semble un petit peu différente. Et donc moi c'est une question que je soumets aux intervenants, je soumets à ça, c'est celle de cette du caractère finalement congruent ou pas de la définition d'acceptabilité contenue dans ces deux postures. Donc ça c'est une première question. Et donc une deuxième question, alors je vais me rapprocher de questions plus directes à chacun des intervenants, je voudrais leur soumettre, alors d'abord à Gérard Roubaix, finalement une forme de complexification de la question de l'acceptabilité dès lors qu'on la saisit à travers des dispositifs concrets d'action publique. Et notamment, vous avez évoqué les extraprises, il me semble que les extraprises sont un bon moyen de distinguer, moi ce que j'appellerais, enfin, derrière l'acceptabilité, la figure de l'acceptation et celle du consentement. Je m'explique. Les extraprises, donc pour le redire très vite, un dispositif qui consiste à introduire des éléments d'information dans les réseaux de distribution et de production d'énergie de façon à les ajuster en temps réel, cet ajustement allant se loger jusque dans les bâtiments, dans les logements, dans les équipements et dans ce qui constitue nos pratiques quotidiennes de l'énergie. Et là, on a deux types d'interventions qu'on a tendance à confondre. Le premier dispositif consiste à envoyer de l'information, des signaux aux usagers de façon à ce qu'ils ajustent leur comportement, qu'ils évoluent. On va vers des transformations culturelles, vers plus de sobriété, plus d'attention, et on est dans ces dispositifs de soumission sans pression que décrivait Régis Lefebvre. Et on a un deuxième type de fonctionnement de smartphone qui est le demand response, qui consiste non plus à chercher à influencer des comportements, mais à obtenir des effacements de consommation, des différés, des anticipations, des arrêts, à des moments précis, en fonction de la demande du réseau d'énergie, soit parce que l'énergie qui circulerait dessus serait chère ou très carbonée, soit parce qu'il faudrait couvrir un danger pour le réseau, un danger de blackout par une trop grande consommation à un moment donné, ou une trop grande production, par la production notamment des énergies renouvelables, dont l'intermittence de fonctionnement ne coïncide pas toujours avec les rythmes de consommation. Alors, en quoi ça joue sur deux figures d'acceptation? Il me semble que dans le premier cas, dans deux figures d'acceptabilité, dans le premier cas, l'acceptabilité est de l'ordre de, quand je parle de signal, d'influence, c'est-à-dire comment faire passer l'effort réalisé par des contreparties gratifiantes sur le plan moral, par ce qu'on appelle la gamification, des gratifications ludiques. Et donc, on va obtenir de ces éléments-là une évolution qu'on espère durable, mais qui n'est pas toujours des comportements. Et dans le deuxième cas, on est dans l'ordre du consentement à s'effacer, qui est plutôt d'ordre contractuel, en amont, et qui, de mon point de vue, est susceptible, pour le coup, de discussion, d'un débat public. On n'est plus dans l'influence, on est dans le choix, mais ce choix est aujourd'hui particulièrement invisibilisé par les technologies qui sont en œuvre pour l'Institut. Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple pour distinguer acceptation et consentement. Je ne sais pas d'ailleurs si la distinction n'est pas un peu spécieuse, mais il me semble qu'il y a en tout cas deux figures de l'acceptabilité, celle consiste à rendre acceptable, faire passer la figure, et celle qui consiste à obtenir le consentement, c'est-à-dire l'engagement. D'ailleurs, on consent après, on accepte, il y a des degrés dans l'acceptation, il y en a moins dans le consentement. Bon, déjà, j'avance un peu vite, je reviens aux questions directes. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre dans ces questions-là. Donc, vous avez parlé d'effet rebond tout à l'heure. Il me semble que donc l'effet rebond qui viendrait finalement soit d'un relâchement d'attention, soit de la libération des capacités à consommer du ménage suite à l'installation de technologies qui lui font perdre la conscience de ce qu'il consomme. D'autres, aujourd'hui, d'autres approches ont une lecture un petit peu différente de l'effet rebond. Ça consiste à dire que les ménages optimisent, alors c'est pas forcément contradictoire avec ce que vous dites, mais les ménages optimisent d'ores et déjà leur consommation d'énergie. Quand on regarde ce qui est commercialisé en France pour le chauffage, fuel, électricité, gaz, et quand on compare aux consommations attendues par le diagnostic de performance énergétique des bâtiments, on constate qu'il manque 50 TWh. C'est-à-dire qu'il y a une sous-consommation par rapport aux consommations attendues. C'est-à-dire que, manifestement, les usagers, les ménages, les individus que nous sommes, trouvent un moyen pour ne pas consommer autant que le dispositif technique bâtiment dans lequel on vit, le logement, devrait consommer. Et donc les travaux qui vont être réalisés au titre de la réhabilitation énergétique des logements, dont on attend un certain niveau de performance, donc une baisse des consommations, sont en réalité aujourd'hui fondés sur l'hypothèse d'une intensité d'usage des logements qui ne correspond pas à la réalité. Autrement dit, si jamais on consomme plus que ce qui est prévu, ça ne sera pas tant lié à une forme de libération des comportements par la visibilisation de l'énergie que nous consommons, mais plutôt par finalement la privation de la capacité à intervenir sur le logement. Et on peut citer des travaux, par exemple, récents, qui montrent que des ménages qui utilisent des systèmes de chauffage d'appoint, donc particulièrement consommateurs d'énergie, donc les thermiciens nous disent que c'est vraiment la catastrophe, finalement, consomment moins que d'autres ménages qui n'en seraient pas équipés. Et donc, il y a l'idée, et je reviens sur cette institution de clivage entre le monde de la compétence, du savoir, du pouvoir, enfin, le monde des personnes physique ou morale investit de cette responsabilité-là et le monde des usages, des comportements, les mondes sociaux de l'habitat, eh bien, la compétence est aussi du côté de ces mondes-là. Du coup, est-ce que l'enjeu, c'est de faire accepter des transformations comportementales ou plutôt d'être capable d'intégrer le fait que les comportements prédisposent déjà à des formes d'économie qui sont appelés au nom du développement durable. Deuxième chose, ça va être plus rapide, plus simple, la question de la visibilité et de l'invisibilité. Il y a un paradoxe là, aujourd'hui par rapport à cet enjeu-là. Vous dites, peut-être faudrait-il, plutôt qu'invisibiliser tout ce qui relève des consommations d'énergie, les rendre plus visibles. Or, Là où je trouve un paradoxe, c'est-à-dire que soit on invisibilise et donc du coup on dépossède, soit on visibilise et du coup on visibilise, on cherche à faire prendre conscience et donc à influencer. Et dans les deux cas, j'ai eu voilà, une difficulté, en tout cas un problème éthique, un problème moral. En tout cas, les designers ont énormément travaillé sur la visibilisation de l'énergie, aujourd'hui ils en viennent pas mal. Deuxièmement, sur la question, toujours sur la partie de la visibilité, rendre invisible pour rendre acceptable, mais du coup, finalement, cette autonomie des systèmes techniques, parce qu'ils sont devenus invisibles, nous déposséderait en tant que sujet et nous ferait perdre notre autonomie. On peut tout à fait dire l'inverse, me semble-t-il. La routine, certes, un signe d'aliénation, c'est aussi ce qui nous libère l'esprit pour faire d'autres choses, et peut-être qu'on est moins sujet pour des dispositifs de régulation qui ne retirent pas notre attention permanente, et ça nous permet d'être acteurs dans d'autres sphères. Ensuite, sur ce que vous avez dit les uns les autres, sur finalement sur les régimes normatifs qui déterminent l'usage. Il me semble qu'aujourd'hui, on est face aux enjeux de développement durable, face à une concurrence de régimes normatifs qui rend problématique la question de l'acceptabilité. Je prends le travail, par exemple, de Céline Varignot, qui est une thésaire dans l'économie, qui a travaillé sur les travaux d'amélioration énergétique à Lyon, et qui, par exemple, l'attention à la capacité à payer de ses voisins, autrement dit le souci moral des autres, devient un obstacle à la réalisation de travaux pour, au nom d'un bien commun supérieur et celui des générations futures. Et donc, je ne sais pas comment résoudre ce conflit de régime normatif. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, c'est toujours sur, finalement, la question de l'acceptabilité, la question de notre statut de sujet, et la façon dont ça change ou pas ce statut. C'est finalement, aujourd'hui, l'émergence de types de solutions qui, comme vous l'avez évoqué, font disparaître les objets ou les rendre second par rapport à leurs fonctions, et tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de fonctionnalité. Cette économie de fonctionnalité qui consiste à délivrer un service qui passe par un objet dont nous ne serions plus propriétaires, comme un téléphone, une voiture, un pneu, des fenêtres, peu importe, et qui du coup serait plus efficace écologiquement parlant parce que ce serait la propriété d'une société, d'une coopérative, peu importe, de services qui l'économiserait au maximum au profit du service délivré. On vendrait des kilomètres parcourus, par exemple, et donc on économise au maximum les pneus pour abaisser le coût de ce kilomètre parcouru. Donc ces économies de fonctionnalité nous dépossèdent aussi de notre capacité à intervenir sans médiation dans les objets qui constituent notre environnement, une capacité à les améliorer, à les comprendre, à finalement à les rendre perfectibles. Et il me semble que, alors là on sort du débat sur l'acceptabilité sociale, mais sur les transformations anthropologiques majeures que pourraient provoquer un certain nombre de transformation au nom du bien commun, mais là j'anticipe peut-être sur la séance qui sera animée par Philippe Génestier, donc sur les conséquences sur notre statut ontologique en quelque sorte dans notre rapport à notre environnement. Voilà, merci.